This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punchy. Non, on parle pas de trucs japonais. Super Laser Punch, on va dire comme ça. Je suis Patrick, ça va Johan ?
Ça va très bien, et toi ?
Écoute, je suis en forme. Je propose que les auditeurs nous envoient des sur les réseaux sociaux des enregistrements de eux et de leur prononciation de Super Laser Punch.
Oui. Excellent. J'espère qu'on aura plein d'accents.
Ouais, genre super laser punch, le genre un truc parigo. On va parler.
On peut le faire comme à l'ancienne, tu sais, comme les anciens speakers de séries télé, vu qu'on est sur Vendée.
Exactement.
Super laser podcast.
Exactement. Bienvenue dans ce programme Super Laser Punch. Nous vous proposons aujourd'hui un débrief de l'épisode numéro 4 de la série de télévision WandaVision. Ça me paraît bien comme ça. WandaVision, épisode 4, celui où tout est révélé. Vous savez que dans ce podcast, on parle du MCU, de Marvel, et de tout ce qui se passe autour de tout ça. Et là, on va parler de l'épisode numéro 4 de WandaVision, qui est quand même hyper spécial. Après 3 épisodes passés dans les sitcoms des années 50, 60 et 70, là, on revient dans le monde réel. On suit... Alors... On va pas faire tout l'épisode scène par scène, mais il faut qu'on parle de l'ouverture. Je dois dire que cet épisode est sans doute l'un des meilleurs mid-season payoff et payoff tout court de l'histoire des séries télé. Que de fanservice, que de références. Ouais. Et puis, le passage de l'autre côté du miroir est tellement satisfaisant, mais cette scène d'ouverture, elle est magique parce qu'elle fait référence à... C'est un hommage au MCU, quoi.
Ouais, et puis c'est enfin moi je me suis demandé ce que c'était au début, parce que au début une espèce de poussière là qui flotte, qu'est-ce qui se passe, puis moi j'ai vraiment pas compris tout de suite la reconstruction, enfin qu'est-ce que je me demandais, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tout de suite capté que c'était le retour du coup du blip,
mais oui parce qu'on l'a jamais vu, ça. Évidemment on les a vus se désintégrer, mais quand on avait vu dans Far From Home le retour des membres de l'école de Peter Parker, ils sont juste apparus, on les a pas vus se reformer petit à petit.
Et puis c'était fait sous forme de blague, puisque du coup c'était des sportifs qui réapparaissaient au milieu d'une fanfare et qui se cognaient et qui se vautrait par terre, donc c'était plus sur le registre de la blague. Là c'est très vite très angoissant, parce que voilà, on est dans un hôpital, du coup t'as plein de gens qui réapparaissent, c'est la cohue. Vraiment elle est assez intense, cette scène.
Et du coup ça te ramène, après ce petit voyage dans les séries télé, ça te ramène dans ce qu'est vraiment le MCU, et c'est vraiment genre non mais c'est la suite de ce qui s'est passé avant, là on revient exactement là où on en était. Et donc on a Monica Rambeau, la fille de sa mère
original, voilà. Le MCU, disons, hein.
Donc la fille de sa mère Maria, l'amie de Captain Marvel, Carol Danvers, et elle est au chevet de sa mère, et bien sûr, moment poignant, elle revient et sa mère est morte. Et bon, bref, on passe tout ça, on arrive au truc un petit peu juicy MCU, et donc on a la confirmation qu'elle fait partie du SWORD, et là encore, génie absolu. L'acronyme SWORD, qu'on connaît tous si on connaît les comics, qui est Sentient World Observation and Research, je crois, Division ou Department. Donc, en gros, c'est le centre d'observation des mondes conscients, donc c'est, on surveille les aliens, et là, dans un trait de génie absolu, il retransforme ça en Sentient Weapon, Observation and Research Division, Weapon, en changeant ce mot. Je ne sais pas si je suis spécial dans mon appréciation de ce tour de passe-passe, mais c'est peut-être parce que j'aime les langues ou je ne sais pas, mais d'une part, ça colle avec Sword, donc c'est, ça tient très bien, mais, et d'autre part, ça invente un terme pour un concept qui est devant nos yeux depuis 10 ans ou 12 ans avec le MCU. Et c'est un terme qui est tellement cohérent de sentient weapons, donc armes conscientes, c'est tout ce qui se passe depuis 12 ans dans le MCU. Et ils mettent un mot dessus, et ça, c'est tellement logique qu'il y ait une division qui s'occupe de ces trucs, que j'ai trouvé ça... Je suis en train de me ridiculiser, Johan, ou...
ouais, je dirais que t'es un peu too much, quand même. Mais... non, mais je suis quand même d'accord que le terme, le twist du terme est vraiment très, très, très bien trouvé. Voilà, après, je sais pas trop ce que ça va signifier hein, comme organisation pour la suite. Ça a l'air d'être important.
Bah oui, c'est le pendant du Shield. Ouais. Sword and Shield, bien sûr.
Parce que du coup, c'était quand même plus ou moins les attributs du Shield, puisque c'est le Shield qui surveillait Stark, qui surveillait les gens à pouvoir, Captain Marvel et compagnie.
Disons que le Shield, le Shield est un petit peu... Mais il existe, le Sword, depuis longtemps. Le Sword s'occupe plus des mondes aliens, en théorie, et visiblement dans la série aussi, puisque, entre parenthèses, je ne sais pas si tu as noté, mais ils ont parlé de rayons cosmiques qui sont dans les comics à l'origine...
Très, très bien noté.
Oui, à l'origine des Fantastic Four, qui vont arriver bientôt aussi. Mais oui, il y a... visiblement, il s'occupe des mondes aliens, puisqu'il a en partie été fondé par Maria Rambeau, la mère donc de Monica. Bref, on ne va pas partir sur les délires sur le Shield, mais oui, c'est une organisation qui serait peut-être l'équivalent de la CIA pour les super-héros ou les aliens, alors que le Shield, c'est le FBI. Je ne sais pas si ça tient vraiment, mais bon. Monica retourne au Sword, et elle est envoyée donc à Westview, et on a cette scène, et j'ai dit qu'on va pas faire scène par scène, mais peut-être qu'on va faire un peu quand même, la scène à l'entrée de la ville, absolument surréaliste, où t'as les shérifs, là encore c'est tellement bien trouvé, parce que ça correspond, c'est un truc qu'ils font très bien dans le MCU, ils font ce que font le mieux les belles œuvres de science-fiction. C'est-à-dire qu'ils tordent un truc dans la réalité, ils changent certaines règles, et puis ils voient ce que ça donne, ce que ça donnerait dans la réalité. Et l'exemple de tous les gens des environnements, ils ne se souviennent pas, ils ne savent pas que Westview existe, avec les shérifs qui sont assis sur leur bagnole.
Ouais, dos à la pancarte.
Et donc... Westview n'existe pas. Non, jamais entendu parler.
Il se moque du mec du FBI, quoi.
C'est ça.
C'est savoureux, quoi.
Ouais. Et là encore du fan service, puisque le mec du FBI, c'est Jimmy Woo, qui était dans Ant-Man. Ouais. Je vais partir dans toutes les petites références, mais quand il montre sa carte à Maria Rambeau, il le fait en la sortant de nulle part avec un tour de magie, comme le faisait Scott Lang dans Ant-Man, et il était hyper impressionné par le truc.
Il était impressionné, ouais. Du coup, il a appris à le faire depuis, et il le fait tout le temps, donc c'est rigolo. Ça. Ouais. Il y a un truc, moi, qui m'interpelle là, dans ce début-là, c'est justement le pourquoi, enfin, le Sword, pourquoi est-ce que le Sword s'intéresse à ce cas-là? Alors, enfin... Ce cas est un peu étrange. Je vais juste rappeler un peu ce qui se passe. C'est que du coup, il y a l'agent Jimmy Woo qui est à la recherche d'un quelqu'un qui est protégé. Comment on appelle ça?
C'est qui fait partie du programme de protection des témoins, ouais.
Qui a disparu. Donc il était censé être dans cette ville-là. Donc déjà, on a une personne qui a l'air quand même assez importante, protection des témoins, qui est coincée a priori dans Westview. On ne sait pas encore de qui il s'agit. Donc c'est juste une histoire de disparition, et je trouve ça étrange la façon dont est envoyée du coup Monica là-dedans, comme si tu vois, finalement il savait pas encore qu'il y avait un dôme, qu'il y avait des disparitions.
Ah bah si.
On va dire.
Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que Jimmy Woo a dit, justement, il y a un truc bizarre dont le FBI est pas, peut pas s'occuper parce que c'est un peu trop bizarre, ouais. Parce qu'il a, il s'est rendu compte. C'est lui qui lui montre, regarde, le shérif, ce qu'il dit et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé le SWORD. Moi, je pense qu'il, que lui, il s'est rendu compte que bah, Westview n'était pas censé exister. Et il dit d'ailleurs, quand elle lui demande « Mais pourquoi t'es pas rentré dans la ville ?» Il lui dit « Bah, parce qu'elle veut pas que je rentre. » Tu ne ouais, le sens pas,
truc,
tu vois.
Un repoussoir psychologique, apparemment. Ouais.
Et donc, je pense qu'il savait. C'est pour ça qu'il a appelé le SWORD. Ceci dit, le fait que... c'est marrant parce que le directeur, le acting director du SWORD, tu sens tout de suite que c'est un salaud. Tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Il dit...
Il y a un petit cloche. Hein.
Ouais. Et il dit, bah, ta mère aurait dû... Enfin, tu aurais dû choisir, mais t'étais pas là. Elle dit, non, non, mais c'est bon, t'étais the person for the job. Tu sens qu'il y avait des tensions, peut-être, entre Maria et lui. Et tu sens que ça va mal ouais. se finir. Peut-être même qu'il est impliqué dans le truc. On n'a même pas parlé dans l'épisode précédent des, de la manière dont Agatha Harkness est censée être... de ligue avec Mephisto, qui est le diable dans le MCU. Et d'ailleurs, je veux dire ça, si ils réussissent à introduire le diable dans le MCU de manière logique et que ça colle, je sais pas ce que... Enfin, j'ai mon admiration qui est déjà sans limite pour les capacités de Kevin Feige à faire des choses impensables s'envolera dans la stratosphère, quoi. Parce que, pour ceux qui savent pas, Mephisto dans les comics Marvel... C'est le diable. C'est vraiment genre tout rouge avec une queue pointue, des cornes. Enfin, c'est le diable, quoi. Et ça passe dans les comics. Mais dans, en série, et je me serais dit, mais non, mais c'est pas possible, ils vont changer, ils vont adapter, machin. Mais en même temps, ils ont réussi à faire un raton laveur qui parle et un arbre conscient. Et tout le monde trouve ça super normal et super cool. Donc, je sais pas. Mais...
Oui, puis, que tu... oui, c'est vrai qu'il y a, alors ça, on a relevé qu'il y avait quand même beaucoup de références au diable hein, dans tous les épisodes. Oui. Il y a toujours une petite mention, soit c'est des expressions comme le diable est dans les détails,
ouais.
ce genre de choses-là. Donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Mephisto va arriver. Alors moi, j'avoue que c'est un personnage que je connais pas du tout hein, dans les comics, que j'ai dû croiser quelques voilà, fois, oui. mais sans plus. Et en même temps, je connais hein, le MCU qui te fait croire à des choses et qui joue justement avec les attentes des connaisseurs de comics pour finalement ouais. Complètement les retourner. Ça avait été le cas pour le comment il s'appelait là dans Iron Man 3, tu sais, le méchant...
Ah oui, bien sûr.
C'était juste un acteur.
Du Ten Rings. Ah, merde, le trou.
Bon, le bref, mandarin.
Oui, le mandarin. Oui. Ouais. Pas le mandalorien, le mandarin. Non, exactement. Pas...
donc, du coup, je suis assez méfiant sur ce genre d'indices un peu trop, tu sais. Donc, je me dis, il va être capable de tourner le truc soit de façon ultra, on va dire, entre guillemets réaliste dans le MCU et en même temps on a déjà vu Dormammu, on a déjà vu tu vois des trucs cosmiques on a vu des demi-dieux là égaux sur
ouais.
Gardien enfin on a déjà commencé à voir quand même des individus et puis après tout Thor c'est Thor aussi tu vois donc
bah oui
bon
c'est pour ça que je donc, me dis peut-être quoi mais bon oula pardon donc bon, la excusez-moi. La série continue et on a comment elle s'appelle Darcy Lewis qui est devenu ouais. Docteur, qui a eu son doctorat et qui a été appelé pour l'un des spécialistes qui est censé comprendre ce qui se passe ici et elle comprend qu'il y a dans le CMB une sous-couche un petit peu comme dans Contact qui est en fait une série télé et c'est là qu'on comprend que le Shield était en train de regarder la série télé et c'est vraiment une série télé qui est diffusée depuis le centre de Westview, qui est d'ailleurs dans le dôme de Westview fait un pentagramme et il commence à découvrir que toutes les personnes qui vivent dans cette série télé sont en fait des vrais gens qui jouent un petit peu le rôle d'acteurs. Et ça n'a pas l'air d'être les gens qui vivaient à Westview. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Et sont tous des gens qui ont une identité qu'ils ont trouvée, sauf
Agatha Harkness. Je crois qu'ils ont le Westview puisqu'ils ont... J'allais dire, je crois qu'ils sont de Westview, puisqu'ils affichent leur pièce d'identité à un moment donné, et c'est tous des pièces d'identité du New Jersey.
Du New Jersey, oui, t'as raison. Sauf Agatha, sauf Agnès, qui n'a pas d'identité, ce qui pourrait laisser penser que c'est effectivement Agatha Harkness, la sorcière immortelle. Mais oui, et donc on a tout ce reveal. Et donc peut-être qu'on peut parler de, dans l'ensemble, ton avis sur l'épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça t'a satisfait comme reveal?
Alors, quelque part, là on revient à du très classique MCU en termes de réalisation, en termes de, voilà, d'ambiance, etc. Et par contre, ça se rattrape sur justement, moi, surtout. La mise en place des attentes, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques réponses, il y a pas mal de réponses. Donc on confirme que c'est bien une série télé qui est diffusée. Donc eux voient comme nous la série télé de Wanda, ce genre de choses-là. On comprend aussi l'apiculteur. Donc c'était quelqu'un qui était envoyé, sa combinaison s'est transformée pour matcher avec l'univers dans lequel il est en train de rentrer. Et il y a un certain nombre d'éléments moi que je retiens. Il y a on a Jimmy Woo qui écrit au tableau pas mal de questions qu'il a et qui correspond je pense aux questions qui nous restent jusque là donc à répondre. On en avait parlé un peu la dernière fois. Donc il y a est-ce que Vision est vivant, qui est derrière ça, pourquoi c'est un hexagone, c'est ça, pourquoi un hexagone, est-ce que c'est Wanda qui
c'est comme la France. Un indice.
En fait, c'est la France de l'autre
côté. Est-ce que Westview est oui, exactement. Bon, pardon. Vas-y. Ouais.
Et pour moi, ça, c'est un peu le signe que on se pose peut-être pas les bonnes questions, parce que du coup, s'il les écrit dans la série, enfin, s'il les montre volontairement à tout le monde, j'ai l'impression que c'est un petit peu un piège, tu sais, des fausses pistes ou des. C'est genre, oui, on sait très bien que vous vous posez ces questions-là, ça fait exprès. Et donc, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Moi, ce qui m'intrigue particulièrement, c'est le retour de Monica, hein, qui s'était fait projeter à travers le champ cosmique. Du coup, on peut se demander déjà, ces champs cosmiques, c'est les mêmes rayons que qui a transformé les Quatre Fantastiques dans les comics et dans les films des Quatre Fantastiques d'ailleurs aussi.
Ouais. C'est pas tout à fait. Ouais. On va partir dans des questions de physique, mais le cosmic microwave background, c'est pas tout à fait le truc qu'elle a traversé. Enfin bon, mais c'est parce que. Ouais. Bon, bref.
En tout cas, elle était. Enfin, on sent quand même qu'il s'inquiète à l'extérieur. Il s'inquiète de ces émissions. Ouais. Tu vois, elle fait waouh, il y en a énormément. Et l'autre, il fait attends, ça veut dire que ça peut s'étendre. Elle fait pour l'instant, ça va, ça reste contenu. Donc, peut-être que ces gens-là sont en train d'être irradiés.
Le truc auquel tu fais référence, c'est que Monica Rambeau dans les comics, c'est Photon, un super héros. Oui. Et tu dis peut-être qu'elle a obtenu ses pouvoirs en traversant et en étant manipulée par Wanda. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est pas du tout le cas. Elle aura des pouvoirs à un moment, mais pour une autre raison. Mais bon, on verra.
Ouais, en tout cas, moi, je vois ça possible. Et puis surtout, elle garde entièrement ses vêtements et quand elle était à l'intérieur. Donc, quand elle est rentrée, ses vêtements actuels se sont transformés pour matcher avec le monde interne. Donc, elle a son petit badge Sword, notamment, hein, qui je sais pas.
S'est transformé en pendentif.
C'était son badge qui s'est transformé en pendentif. Et tout ça, c'est resté en l'état en sortant. Du coup, on peut commencer à se demander, OK, à l'intérieur, c'est une construction. Est-ce que ces choses-là peuvent finalement sortir et se matérialiser de façon pérenne dans le monde réel?
Il y a une manifestation physique de ce que crée Wanda ou ceux qui créent ce truc. Il y a une manifestation physique. D'ailleurs, ça amène le fait que ses enfants vont vraiment être ses enfants. Et j'imagine qu'ils vont grandir très vite comme elle a fait son terme très vite quand elle était enceinte. Et peut-être que Vision va revenir, quoi. C'est possible, mais bon.
Et l'autre question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup l'émission est volontaire? Parce que tu vois, eux, ils reçoivent l'émission. Nous, on avait les rembobinages et compagnie. Eux, ils l'ont pas. Eux, c'est coupé comme si ça avait été censuré, monté, tu sais, pour pas qu'il n'ait de vision, de vue là-dessus. Donc voilà.
Donc elle fait le montage. Elle fait un montage de ce qui est en train de se passer dans son. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Et elle publie les émissions aussi vite que tu publies les podcasts. Tu vois.
presque, quasiment. Donc au final, c'était. Bah, t'as pas répondu à ma question. Satisfaisant ce reveal.
Ouais, bah oui, c'est ça. Moi, moi, je suis là pour le mystère et pour les. Voilà. Et je suis très content qu'il reste autant de questions. Donc, pour moi, c'est pas terminé. On va vite retourner, enfin, je pense, hein, dans la série télé et continuer à vivre ça. Donc, revoir ces personnages qu'on aime sur, enfin, moi, j'adore le personnage de Darcy. Retrouver un peu, voilà, ces personnages-là, les voir réagir à la série télé, c'est vraiment, vraiment génial.
Ouais.
Darcy qui est à fond dedans, qui pleure, qui fait oh, quand ils s'embrassent, etc.
Et c'est marrant parce que ça a fait un miroir avec ce que nous, on Exactement. Faisait devant la série, et c'est hyper, hyper bien réalisé avec, effectivement, Darcy, qui est hyper cool, qui était sympa dans les Thor, mais bon, qui était quand même un personnage secondaire. Jimmy Woo, ils ont une capacité à te faire, à t'exciter, à te faire aimer tous ces trucs qui est assez folle. Parce que vraiment, quand tu... Ouais. Le Jimmy Woo, qui était vraiment un personnage, mais on s'en foutait, quoi. Tu vois, quand ils sont en train de manger du popcorn devant la série et qu'elle dit « Et toi, t'en veux ?» et qu'il croit qu'il parle des enfants, il dit, et qu'il commence à dire « Ah bah oui, moi, tu sais, j'y ai pensé, un petit Jimmy qui ferait avec son petit badge du FBI. » C'est tellement... C'est pour ça que quand les gens disent « Ah, la formule Marvel, il y en a marre. » Oui, je comprends, mais... C'est du pop-corn, c'est là pour te divertir, pour t'amuser. Et heureusement qu'on a des trucs comme ça. Oui, et bon, enfin bref, on va pas partir sur la thèse de la formule Marvel, mais mais ça fonctionne, quoi. Et là, c'est clairement...
Ça marche super bien. Et, ouais. et puis voilà, c'est à chaque fois frustrant d'arriver à la fin de l'épisode et de devoir attendre une semaine. Mais cette frustration fait partie du plaisir.
Et puis en même temps, à la fin de l'épisode, il y a cette vision... vraiment terrifiante de Vision mort qui est devant elle, dont elle se rend compte. Et donc, on se dit, bah non, en fait, il est mort. Mais c'est là encore, c'est sans doute le plus grand choc parce que visuellement, alors que c'est pas un zombie, c'est pas une personne, mais visuellement, là encore, ça met mal à l'aise. Voir Vision complètement désaturée avec son trou dans la tête, ça met aussi mal à l'aise que s'il avait été un zombie, Vision zombie, je sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Quelqu'un qu'on aurait vu mourir, de mort violente en tout cas.
Qui serait revenu à la vie avec.
En état, quoi.
C'est ça.
Avec son corps abîmé, quoi.
Ouais.
Et tout à fait. Et du coup, là, on est à ce niveau, on va dire, de la série, on a énormément de questions, notamment sur Vision. Est-ce que du coup. Est-ce qu'il est lui ? Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est juste une création ? Est-ce que c'est vraiment son corps, qui est là ? Et comme elle a perdu le contrôle, le corps est redevenu tel qu'il est censé être, brièvement. Enfin, il y a plein de questions ce genre-là.
Exactement. Et d'ailleurs, on dit une semaine, mais là, au moment où vous écoutez cet épisode, soit le cinquième est déjà arrivé, soit il arrive demain, donc ou dans pas longtemps. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à se surexciter pour ça. On va le regarder dès qu'il est diffusé. Et on fera un épisode sur le cinquième pour rentrer dans notre rythme hebdomadaire normal. L'épisode sera disponible le lundi après la diffusion de... j'espère, on va essayer de tenir le rythme après la diffusion de l'épisode de série télé. Et on fera comme ça, au moins sur WandaVision. Mais juste après, on enchaîne avec Falcon et Winter Soldier. Et puis après, j'imagine qu'il y aura Loki. Et puis après, il y aura tout, quoi. Donc
on s'enchaîne parfaitement, quasi. Il va y avoir quelques semaines, une semaine par-ci, par-là de rien, mais...
Oui, et soit on fera une pause, soit je suis sûr qu'on trouvera des choses à faire. Moi, j'aurais envie, par exemple, à un moment, de faire chaque film du MCU, de les revoir aujourd'hui, et puis d'en parler pour voir s'ils ont bien tenu, ou ce qu'on en a pensé, ou enfin... Vraiment...
Je les ai pas vus, tu vois, donc pourquoi pas.
qui les a pas vus?
Non, je dis, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc,
Oui, voilà.
Je regarderai bien avec plaisir.
Il y a tellement, vraiment, dans ce podcast, il y a l'intention de se vautrer dans le fandom qu'on aime et de ne pas bouder son plaisir, quoi. Donc, j'espère que vous serez avec nous pour ce voyage. Et en tout cas, moi, je trouve que ça commence très, très bien. On s'amuse beaucoup et je suis sûr que pour les épisodes dont on va parler, quand ils viendront d'arriver, ça sera encore plus excitant et encore plus drôle. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Johan, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet?
Alors moi, on me retrouve sur Twitter à @johant_.
Le lien sera dans les notes de l'émission, comme les liens vers mon Twitter qui est NotPatrick. Je suis également NotPatrick sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez me retrouver sur notpatrick.com où vous aurez des liens vers tout ce que je fais, y compris les podcasts, YouTube, etc., etc., la newsletter, enfin tout ce qui va bien. Donc vous pouvez retrouver ça sur notpatrick.com. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans quelques jours pour le débrief de l'épisode 5 de WandaVision. Ciao, ciao.